Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Eh bien, bonjour et bienvenue. Je suis Georges Chatillon, donc le directeur du master droit du numérique, administration entreprise, dont les co-directeurs sont Madame Boisdana, qui est ici, et bien sûr Monsieur William Gilles. C'est le colloque d'un master. C'est un exploit. D'autres masters peuvent faire des colloques, mais à vrai dire, extrêmement peu, et en particulier à Paris 1. En principe, c'est un colloque qui est ouvert aux étudiants du master, à la fois la promotion sortante et puis un certain nombre d'étudiants de la nouvelle promotion, celle de la prochaine année universitaire. Et puis, on s'efforce d'inviter des gens qui ne sont pas des étudiants. Le master est suffisamment dynamique, et les étudiants encore plus. Et ce sont eux qui ont pris en charge l'organisation du master. Ce sont eux qui ont édité les programmes, qui ont envoyé des mails un peu partout, qui se sont débrouillés pour avoir cet amphithéâtre, pour qu'on soit filmé également. Bref, ils se sont occupés de tout. Et si vous étiez passé derrière le tableau, vous auriez pu en plus boire une petite tasse de café et manger un croissant. Autrement dit, l'organisation va vraiment jusqu'au bout des choses. Où est le programme là ? Je peux avoir un... Ah, merci beaucoup. Alors, c'est un colloque, évidemment, qui vous intéresse énormément, puisque vous êtes là. Le thème en est « Vie privée, vie publique à l'heure du numérique ». Bien sûr, on commence par la vie privée. Il fut un temps où les deux domaines étaient quasiment séparés. On ne se permettait pas de s'exhiber en public. On conservait les valeurs familiales bien au chaud dans le logis. Et les relations sociales étaient en quelque sorte protocolaires, que ce soit dans les villes ou dans les villages. Autrement dit, on sortait comme on va au théâtre, éventuellement pour rencontrer des amis, éventuellement pour rencontrer des relations, et on se gardait bien de divulguer à l'extérieur quoi que ce soit qui constituait le trésor de la famille, c'est-à-dire l'intimité, la vie privée. Il me semble que cet aspect des choses était ce qu'on peut appeler le bon sens. Aujourd'hui, la problématique s'est totalement inversée. On se demande où se trouve la vie privée de toute une série de membres des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, etc., j'en passe, et des meilleurs. Et du coup, on peut pratiquement penser que presque tout est devenu vie publique. Le droit de la vie privée, tel qu'on l'a entendu depuis des centaines d'années, était un droit qui permettait aux familles de faire ce qu'elles voulaient, de penser ce qu'elles voulaient, à condition bien sûr de ne pas gêner les voisins. Et il y a toujours eu une jurisprudence extrêmement abondante sur le droit de voisinage. Il s'agissait de respecter un équilibre entre les intimités des familles ou leur manière de cohabiter quand ils étaient voisins, entre autres à la campagne, mais aussi dans les villes. Aujourd'hui, c'est la confusion la plus totale, le chaos, le magma. Quand je lis toute une série d'entretiens publiés et qui sont le fait de ce qu'on appelle aujourd'hui les jeunes, comme si c'était une maladie, les jeunes, on se demande où peut résider leur intimité. Ça avait commencé sur l'Internet avec des vidéos live, et qui montraient différentes jeunes personnes dans leur appart, 24 heures sur 24, en train de se livrer à leur intimité, bien entendu, mais qu'ils exposaient en public d'une manière crue. Ça a pu continuer en France avec des émissions de télévision, où on enfermait des gens avec des caméras 24 heures sur 24, Loana et compagnie, et où là aussi le public se repaissait des jeux sentimentaux et autres entre les acteurs. Évidemment, tout ça a fait boomerang. Le développement de l'Internet, qui, sur le plan des réseaux sociaux, repose sur une supercherie, le développement de l'Internet a fait croire à toute une série de gens que leur ego intéressait le monde entier, alors qu'évidemment, c'est loin d'être le cas. On s'aperçoit que, comme d'habitude depuis un siècle, les gens vivent par groupes de petits réseaux familiaux, constitués d'amis. Et jusque vers les années 2000, les gens souhaitaient cultiver ce petit réseau, acquis parfois chèrement du point de vue affectif, afin justement d'en faire une cellule de confiance, une cellule d'amitié et d'échange. Aujourd'hui, les hommes politiques ont des milliers d'amis, des dizaines de milliers d'amis qu'ils ne sollicitent pas. N'importe qui peut s'inscrire sur le blog de Nicolas Sarkozy ou de François Fillon, j'en passe, et des meilleurs. Autrement dit, nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on peut appeler la cacophonie. Ce qui était la vie privée devient la vie publique. Ce qui était la vie publique est obligé, bien entendu, de suivre un certain nombre de règles qui concernent la vie privée. Alors, le droit, dans ces conditions, ne peut pas s'y retrouver. Il est constamment dépassé par les comportements erratiques, je dirais totalement irresponsables, totalement abusifs, s'agissant de leur ego, des gens qui cultivent les réseaux sociaux. Bien sûr, il existe des lois qui devraient permettre de protéger les données. L'article 9 du Code civil, de manière générale, permet de protéger la personnalité, et dans la personnalité, on trouve la vie privée. Je m'arrête une seconde. Dans la personnalité de quelqu'un, on trouve la vie privée. Donc ça n'est pas un hasard si, au sein de l'article 9, tout ce qui peut concerner la vie privée se fait sous l'enseigne de ce qu'on appelle la personnalité, c'est-à-dire la manière dont les gens s'expriment et éventuellement dont ils sont perçus à l'extérieur. Pauvre article 9, qui n'en peut mais, pauvre législation, y compris européenne, quand il s'agit de protéger la vie privée ou les données personnelles. Aujourd'hui, toutes ces règles sont totalement submergées, je dirais noyées. Dans un pays comme la France, et depuis le début, la CNIL n'a jamais eu suffisamment d'argent pour faire le travail qui était le sien, et bien entendu, ça continue. La CNIL est étranglée à la fois sur le plan financier et sur le plan juridique. Et le travail de protection de la vie privée peut se faire éventuellement à coup de procès dans les entreprises, voire dans les ministères. Ce travail de protection ne peut absolument pas se faire sur les réseaux sociaux, d'autant que, bien sûr, les Européens n'ont pas été innovateurs, ce sont les Américains. Et d'ailleurs, tout à l'heure, nous aurons un rapport sur la législation américaine protectrice de la vie privée, et puis, évidemment, celle qui est protectrice de la vie privée en Grande-Bretagne. Comme ça, nous saurons exactement ce qui se passe dans ces pays. Le premier thème du colloque a pour titre « Numérique et sauvegarde de l'ordre public ». Sachant que le numérique est une notion en perpétuelle évolution et que l'ordre public est une notion fondamentalement politique, que le droit essaye de transposer, bien entendu, mais la politique devance toujours le droit s'agissant de l'ordre public. Il n'empêche, il faut bien traiter ce thème, et cela passe par une séance qui s'intitule « Numérique et droit à l'oubli ». On entendra tout au long de cette journée des rapports qui sont faits par un certain nombre de chargés de cours ou de professeurs dans le cadre du master, et je les en remercie, bien entendu, puisqu'au départ, ce colloque avait pour but d'apporter un complément d'informations et des discussions entre étudiants et membres du corps enseignant. Et puis, le second thème a pour titre « Numérique et protection de la vie privée ». On verra comment ces questions sont traitées actuellement. sous l'angle juridique, et puis enfin numérique et transformation de la vie publique et de la vie privée. Je dois vous présenter les excuses de Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État à l'économie et au développement du numérique, qui est devenue la marraine du master et qui initialement devait participer à cette journée, ne serait-ce qu'en l'ouvrant à ma place. Et je regrette qu'elle ne soit pas là, mais elle a eu un impératif. Les politiques ont des impératifs et, bien entendu, ils sont bien obligés d'y aller. Voilà. Ce petit préambule avait simplement pour but de nous remettre dans ce qu'on pourrait appeler la sociologie juridique de la protection des données et de la vie privée. Nous sommes aujourd'hui dans une période de mutation dont les mutants sont les victimes, puisque ce sont les gens qui livrent sans vergogne l'ensemble de leurs données personnelles à qui veut bien les prendre, et en particulier les futurs employeurs, les autorités de police et de justice et tous les détectives du monde. Il est évident que ces personnes vont totalement déchanter par la suite, dans une dizaine ou une quinzaine d'années, et se mordront les doigts d'avoir été aussi naïfs et d'avoir à ce point confondu ce qui les anime sur un plan personnel et qui peut constituer une grande part de leur personnalité, et ce besoin de s'exhiber, de montrer son nombril, voire le reste, qui est bien la contrepartie de la société du voyeurisme dans laquelle nous sommes entrés et pour laquelle tout, il n'y a aucun tabou, ni financier, ni commercial, ni politique, le principal étant de faire du chiffre. Le fondateur de Facebook a déclaré il y a peu de temps, je pense que vous l'avez remarqué, « De toute façon, la notion de vie privée telle qu'on la connaît, je transpose, hein, la notion de vie privée telle qu'on la connaît va disparaître. Il n'y a plus aujourd'hui de notion de vie privée telle qu'on pouvait l'entendre il y a quelques mois, il y a quelques années. Je ne suis pas d'accord. Et j'espère que nous serons un nombre de plus en plus important à ne pas être d'accord. Je vous appelle à créer une association afin de lutter contre les soi-disant réseaux sociaux de type Facebook, de type Twitter, etc., etc., afin que ces impérialistes du vol des données privées puissent quand même se rendre compte que tout le monde n'est pas un petit mouton prêt à livrer toutes ces données avant de finir dans le gouffre. Et puisqu'il s'agit de descendre, je laisse la parole maintenant à quelqu'un qui va nous faire remonter, c'est-à-dire monsieur, je crois, William Gilles, hein, c'est toi qui commences. Voilà. Donc, à toi la charge de les booster maintenant.
Charge difficile. Donc, il me revient d'ouvrir cette première table ronde sur le numérique et le droit à l'oubli. Alors, j'ai commencé par un propos aux intervenants, qui est celui de mon rôle de policier de la table ronde, et de vous remercier de tenir votre temps de parole, qui est d'un quart d'heure, afin de pouvoir laisser de la place au débat et respecter le programme qui a été fixé. Alors, en ce qui concerne cette table ronde sur le numérique et le droit à l'oubli, tu as cité le président de Facebook, je vais citer le président de Google. Les participants vont croire qu'on s'est concerté, mais pas du tout. Je vais citer le président de Google tout simplement parce que le président de Google, face à cette problématique du droit à l'oubli, a fait valoir il y a quelques temps que finalement, face aux problèmes que peuvent laisser les traces sur Internet, il peut y avoir une solution. Parce qu'en général, les traces sont laissées pendant l'adolescence. Et en fait, il suffirait à la majorité de changer de nom de famille. Alors, bien sûr, on peut penser qu'on peut avoir une solution moins radicale. Et je pense que les intervenants de cette table ronde vont s'efforcer de nous proposer un certain nombre de propositions pour permettre au droit et à la raison de s'imposer en ce qui concerne l'oubli. Alors, dans le cadre de cette table ronde sur le numérique et le droit à l'oubli, nous allons entendre M. Herbert Mel, qui est conseiller d'État, professeur agrégé des universités, et qui va nous parler du droit à l'oubli, de l'état des lieux et des perspectives, et donc qui va nous faire une grande présentation générale. Cette présentation générale sera ensuite approfondie. Elle sera approfondie dans un premier temps avec le point de vue du praticien, puisque Mme Virginie Bensoussan-Brûlé, qui est avocate au cabinet Alain Bensoussan, avocat, va nous parler du contentieux en matière de droit à l'oubli, savoir est-ce que c'est un contentieux qui est en devenir. Irène Boisdana nous donnera le point de vue de l'universitaire, puisque Irène Boisdana est maître de conférence à l'Université Paris 1, portée en Sorbonne, co-directrice du master et secrétaire générale de l'Institut du monde et du développement. Donc, il nous parlera de la problématique de la Constitution et du droit à l'oubli, état des lieux et perspectives. Je pense qu'on aura l'occasion là aussi d'avoir un débat abondant dans la salle, mais peut-être y compris dans la table ronde, parce qu'on a tous chacun notre point de vue sur cette problématique. La quatrième et cinquième intervention vont nous faire voyager. Alors, contrairement à ce qui est indiqué sur le programme, Mademoiselle Quillâtre, qui est juriste à la Société Générale, va pas simplement nous parler du Royaume-Uni, mais elle va nous développer une perspective comparée en nous apportant un éclairage sur le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l'Allemagne. Et pour conclure, nous entendrons M. Jean-Baptiste Thomas Sertignan, qui est avocat, qui, lui, ne nous parlera pas de droit à l'oubli aux États-Unis, puisque ce thème aura déjà été traité, mais qui va, ceci étant, nous parler des États-Unis, puisqu'il va nous traiter du cas particulier de la nouvelle école de Chicago. Cette nouvelle école de Chicago permettra d'avoir une approche technique en ce qui concerne la régulation internationale, et donc, autrement dit, savoir qu'est-ce que la pratique peut proposer en matière de droit à l'oubli.